Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Alors, ces journées de budget à Québec, le ministre des Finances, Éric Girard, va déposer le budget 2024. On a vu les groupes de pression se manifester. On comprend que c'est pour la pièce de théâtre parce que le budget est écrit, là. Quand même qu'un syndicat ou un lobby de patron décide de se manifester, ça change pas grand-chose dans les faits. Et le ministre a dit le déficit zéro s'est repoussé dans le temps, le budget est exigeant et nous serons responsables. Quoi comprendre? Il n'y aura pas d'augmentation des taxes, il n'y aura pas de baisse des impôts non plus. Et ce qui va resserrer, ce que j'entends dans la machine, c'est que c'est déjà commencé, là. On passe des commandes pour faire en sorte que le déficit soit moins important. Mais c'est vrai que le coût des conventions collectives, c'est quand même un élément majeur dans l'augmentation des dépenses de l'État. Puis on a beau dire, là, c'est un investissement, on est d'accord, faut que les profs soient mieux payés, le personnel de la santé, c'est parfait. Mais c'est vrai qu'en bout de ligne, ça coûte plus cher. Et ce matin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un sondage. C'est un sondage Somme, c'est dans Le Soleil. Et on a demandé aux Québécois, qu'est-ce que vous voulez exactement dans le budget? Et voici ce que les Québécois veulent. Ils veulent que le gouvernement réduise les dépenses. Là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on coupe? Et là, évidemment, ils disent, non, on est d'accord avec les salaires obtenus par les gens dans le monde de l'éducation, par les infirmières, les inhalos, les préposés. Parfait, on est d'accord avec ça. Ce sont les deux plus gros postes budgétaires du gouvernement. Alors, tu coupes où? C'est pas identifié, mais on souhaite couper. Et c'est ce qu'avait promis François Legault dans ses premières années à la CAQ en disant « Je vais réduire la taille de l'État ». C'était ça le discours. Il l'a pas fait. Et là où c'est intéressant dans le sondage ce matin, parce que c'est bien facile de dire « je veux qu'on réduise les dépenses », tant que tu touches pas à ce qui m'intéresse, ce qui a un impact sur moi, si tu touches pas à la culture, si tu touches pas au ministère des Transports, si tu, bon, tu coupes où exactement? Et c'est ça un peu la difficulté. Ce qui est, c'est 60% des gens là qui disent qu'il faudrait couper dans les dépenses. Et ce qui est assez intéressant donc, c'est quand vous regardez ça par région. Ce sont les gens de Québec, où pourtant il y a le plus de fonctionnaires là au pied carré qu'ailleurs, là, qui disent « non, 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 il faut couper ». Alors qu'à Montréal, ça nous dérange pas trop qu'il y ait un déficit. Il y a une différence régionale entre ce que Québec pense et ce que Montréal pense. Et c'est souligné par la Maison Somme. Ce qu'on découvre donc, c'est 73% des gens de la grande région de Québec pense qu'il faut réduire les dépenses, c'est 57% dans la région de Montréal. Et les gens de Montréal, à 25%, sont d'accord pour faire des déficits et retarder le recours à l'équilibre budgétaire. On s'entend que c'est pas la clientèle de la CAQ, mais que la conjoncture fait que c'est extrêmement difficile. Et puisqu'on reste dans les sondages, M. Legault, qui était le premier ministre le moins populaire au Canada, et maintenant, et pas dernier, mais avant-dernier, c'est Doug Ford qui est le premier ministre, qui est le plus impopulaire. C'est comme si la barque de M. Legault s'est un peu stabilisée. Et vous dire également qu'on a un sondage qui est publié dans le National Post qui montre ce matin que l'appui à travers le Canada à l'immigration massive s'estompe. Il y avait toujours un noyau assez important de gens qui étaient d'accord pour ouvrir les frontières et avoir des taux d'immigration, des seuils d'immigration très élevés. Or, c'est depuis quelques mois de moins en moins vrai. Toute la question du logement et la capacité d'accueil, on peut jouer sur les termes, mais en gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, les Canadiens, et c'est un message, je le répète au gouvernement Trudeau, cette politique de faire entrer 1 million de personnes par année au Canada, ça ne passe plus. Il y a une résistance. C'est pas que les gens deviennent soudainement racistes ou intolérants. Il y a comme une réalité économique qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir autant de gens qui entrent en même temps. Donc, dans le National Post, vous retrouvez le résultat de ce sondage. Et puisqu'on parle de budget, c'est intéressant parce que dans la presse ce matin, on nous explique que le gouvernement du Québec veut revoir complètement la façon de donner des contrats pour les écoles, les routes, les hôpitaux, les investissements publics. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises ne sont plus intéressées à faire affaire avec le gouvernement. Des entrepreneurs me disent qu'encore aujourd'hui, se faire payer par le gouvernement du Québec, c'est compliqué, c'est long, il faut avancer de l'argent, le processus est lourd, il y a une bureaucratie. L'objectif, c'est dans la presse de ce matin, c'est construire de 20 à 25 % plus vite. Est-ce que ça veut dire mieux? Point d'interrogation. Et payer de 15 à 20 % moins cher. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un slogan? Est-ce que c'est réaliste? Puis là, on compte, par exemple, sur la création de l'Agence des transports. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent à cette heure-ci le matin. Ça vous tente-tu ou pas de faire affaire avec le gouvernement du Québec dans un cadre nouveau où on va vous demander de construire plus vite puis de faire baisser la facture? C'est une intention. La faisabilité, c'est autre chose, parce qu'il y a des coûts de financement, mais il y a des coûts rattachés à la lourdeur bureaucratique également, ce qui fait qu'on se retrouve avec des appels d'offres où il y a de moins en moins de joueurs qui sont intéressés. Aussi, il faut parler de la situation en Haïti ce matin, parce que le premier ministre Ariel Henry, qui est à Porto Rico, qui est incapable de rentrer sur Port-au-Prince, a annoncé hier soir son intention de démissionner. Et là, il y a beaucoup de confusion ce matin, là. Il dit qu'il va démissionner. Il n'a pas encore démissionné. Il y a une différence. Deuxièmement, les grands de ce monde réunis pour un sommet de la communauté des Caraïbes avec les Américains, les Français sont là, les Canadiens sont là, tentent de trouver une solution. Officiellement, on veut donc créer un gouvernement de transition et dire aux Haïtiens, c'est le temps d'aller voter, vous allez vous choisir un gouvernement qui sera légitime, de faire une force multinationale avec un rôle important pour le Kenya, pour essayer de ramener un calme dans la capitale et de permettre aux gens de retrouver une vie normale, ce qui n'est pas le cas depuis maintenant des années. Quelle sera l'attitude des gangs armés qui contrôlent, qui ont vidé une prison, ont pris le contrôle de l'aéroport, de la zone portuaire et font à peu près ce qu'ils veulent dans la capitale, quitte à prendre d'assaut des postes de police. Alors, il y a cette démission qui va se matérialiser, j'imagine, et aussi cette volonté des gouvernements de trouver une solution. Et je rappelle qu'il n'est pas question, en tout cas c'est ce qu'a dit Barbary, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, pas question d'envoyer des soldats canadiens. Il n'y aura pas de bottes canadiennes, de l'armée canadienne sur place. Est-ce qu'on pourrait avoir des policiers, forces multinationales? Peut-être, ça s'est déjà vu dans le passé. Mais le peuple haïtien n'est pas friand de voir arriver des gens de l'étranger. Comme disait Jean-François Lépine, espèce de souvenir où il y a eu des agressions sexuelles, des viols, des femmes qui ont été violées par des policiers, soldats étrangers. Et ça, ça marque une population, puis des cas aussi d'épidémie. C'est pas certain que ça peut devenir extrêmement populaire. Mais donc, on verra dans les prochains jours la suite des choses. Vous dire également qu'il y a un navire d'aide humanitaire avec 200 tonnes d'eau et de nourriture qui a quitté Chypre pour la bande de Gaza. C'est l'association World Central Kitchen, qui est déjà présente à Gaza, qui doit recevoir la marchandise, préparer des repas et remettre ça à la population parce que la famine est réelle. Vous avez sans doute vu les images comme moi. Et un autre volet à surveiller, ce sont les services de renseignement américains qui sont convaincus que la coalition de Netanyahou au pouvoir, et on connaît le discours du premier ministre Netanyahou, il veut éradiquer le Hamas, il n'est pas question qu'il reste un pouce carré sous le contrôle du Hamas à Gaza. C'est une guerre qui s'étire avec son lot d'horreurs, de victimes, de victimes indirectes d'agressions sexuelles, tant du côté israélien que du côté palestinien. Beaucoup de victimes. Les Nations Unies se penchent sur la question. Alors, en résumé, est-ce qu'il peut demeurer au pouvoir encore longtemps si ce conflit perdure, comme beaucoup d'analystes le voient, là, c'est-à-dire que c'est pas demain la veille que ça va se terminer. Les cas de tuberculose qui ont été répertoriés particulièrement à Montréal, c'est du jamais vu, un. Deux, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu de la vaccination quand même durant la période de semaine de relâche. On sait qu'un des scénarios qui est envisagé par la santé publique, c'est d'aller directement dans les écoles pour vacciner les enfants qui sont d'âge scolaire et qui ne l'ont pas été. Est-ce que ça va se concrétiser? Ça reste à voir, mais c'est sûr qu'il y a une inquiétude. J'en parlais avec le Dr Weiss ce matin, qui dit que la plupart des patients qui ont la tuberculose, ce sont des gens, puis il y a eu la rougeole, puis là c'est ça, c'est pour ça cette campagne de vaccination, mais là la tuberculose, ce sont des gens qui arrivent de l'étranger, puis des gens qui sont donc hospitalisés. Alors, tu sais, on a parlé de la rougeole, on pensait que c'était pas mal éradiqué, ça ne l'est pas, il y a un enjeu de vaccination, la tuberculose également. Alors, on va en parler, d'autant plus qu'on souligne depuis quelques jours le 4e anniversaire de la pandémie. Et ça paraît loin, mais ce ne l'est pas tant que ça. Et depuis les derniers jours, tout ce qu'on entend, c'est qu'est-ce qu'on a retenu de cette période. On a quand même des souvenirs très précis du confinement, des restrictions qui ont été imposées, des craintes, de la vaccination, qui a été une opération quand même qui a donné de bons résultats. Mais il demeure un point sombre dans tout ça, le pire du pire, c'est-à-dire toutes ces personnes âgées qui sont décédées dans des établissements, centres de soins de longue durée, par exemple. Il n'y a jamais eu d'enquête publique. On n'a jamais voulu faire la lumière là-dessus. Et pourtant, il y avait matière à fouiller pour ne pas répéter les mêmes erreurs. On a laissé à découvert les gens les plus malades, les plus vulnérables de la société, avec des établissements qui se vidaient parce que le personnel était infecté. Les gens n'entraient pas travailler. Et c'est pas juste de mourir de la COVID, c'est de mourir dans les circonstances que l'on connaît, dans certains cas, de faim et de soif. On a décidé de mettre un couvercle sur l'histoire et de ne plus trop en parler, mis à part de le souligner, là, de façon très protocolaire. Mais il en demeure pas moins qu'il y a des leçons à tirer. Et je me souviens d'un moment très précis où plusieurs observateurs disaient « Mais qu'est-ce qu'on attend pour demander une intervention des Forces armées canadiennes ?» Cette espèce de gêne chronique qu'on a au Québec dans une situation difficile, inhabituelle, hors du commun, de se tourner vers les Forces armées canadiennes. On a fini par le faire, mais on le fait toujours en retard. Et ce qui est vrai, c'est que c'était difficile à gérer parce que c'était inconnu. Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans le monde, on avait le cas de l'Italie, où les hôpitaux débordaient. On s'est dit ici, ben, il faut que les hôpitaux soient prêts à recevoir une vague de patients atteints de la COVID. Et la vague n'a pas été aussi importante que ça. L'horreur s'est déroulée, donc, dans les centres de soins de longue durée. Et comme le Dr Weiss nous a accompagnés durant toute cette période, on aura l'occasion de lui en reparler ce matin. Rapidement, dans les autres nouvelles, je parlais de la crevette de Matane. Dans Le Devoir, on nous explique ce matin qu'il y a une chute spectaculaire et que sa pêche n'est plus durable. Donc, les stocks de crevettes ont baissé. Et c'est un phénomène qu'on observait depuis quelques années. Mais disons qu'il n'y a pas de tendance inverse et que c'est assez solide, là. On se rend compte de ça ce matin. Et puis, en terminant, je veux vous parler de la compagnie Boeing, qui connaît, on le sait, beaucoup, beaucoup de problèmes. Rappelons-nous, ce panneau qui s'est détaché en plein vol, il y a une enquête qui a été déclenchée par les autorités fédérales américaines. Le New York Times a obtenu des détails. Et il y a eu ce qu'on appelle des audits, des vérifications faites par la FAA pour ce qui est de Boeing et également d'un fournisseur de pièces. Et sur les 89 audits, 33 ont démontré qu'il y avait eu des problèmes et ont surtout démontré du laxisme de la part de Boeing. Et je vous donne deux exemples qui sont rapportés par le New York Times. Imaginez un fabricant d'avions qui veut mesurer l'étanchéité des pièces et pour être certain qu'il n'y a pas, comme on dit, d'espace où l'air peut entrer qui peut causer un problème quand l'avion est en vol, par exemple. Savez-vous avec quoi ils ont mesuré ça? Ils ont pris du savon à vaisselle. C'est une technique rudimentaire. T'sais, on fait ça à la maison, là, t'sais, par exemple, c'est une conduite de gaz. Tu fais juste passer, puis si ça fait des bulles, tu dis on a un problème. Mais là, tu t'attends pas à ça de la part de Boeing et qu'il y aurait d'autres techniques que ça. Même, ils prenaient une carte magnétique et ils passaient ça en deux parois pour voir s'il y avait de l'espace. Les experts consultés disent que ça n'a pas de bon sens. Et ça fait partie des nombreux exemples d'un laxisme qui découle de procédures rapides de fabrication, d'absence de contrôle, et malheureusement, donc, des appareils qui arrivent en plein vol, puis on se rend compte qu'il manque des boulons, qu'il manque des écrous, qu'on n'a pas fait les inspections qui étaient requises, mais 33 sur 89, pas toujours des affaires dramatiques, mais ça montre un laisser-aller dans la fabrication des appareils.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Nous avons tous en mémoire ce terrible incendie dans le Vieux-Montréal. Ça fera un an, samedi prochain. 7 personnes ont perdu la vie, 9 personnes ont été blessées. Un an plus tard, beaucoup de points d'interrogation. Le nom d'un suspect a été évoqué. Il n'a pas été accusé. On attend toujours de pouvoir faire la lumière sur les circonstances de l'incendie. Avec nous ce matin, M. Louis-Philippe Lacroix, c'est le père de Charlie qui est décédé dans cet incendie. M. Lacroix, bonjour.
Bonjour.
M. Lacroix, ça va faire un an samedi que votre fille est décédée, et comme tous les parents, les proches, vous êtes un an plus tard à chercher des réponses à ce qui s'est passé.
Mais je pourrais pas dire mieux. Effectivement, c'est une année pleine de surprises dans le sens où est-ce que ben l'événement était évidemment on s'attendait pas à ça. Par la suite, t'sais, tout le procédé au début, ensuite le fait que ce soit finalement un incendie criminel, plein d'enquêtes en cours qui sont pas toujours pas où ce qu'on n'a toujours pas réponse. Donc oui, effectivement, si on veut.
Depuis un an, vous avez eu le temps, comme on dit, de jongler avec ça, puis de voir évoluer l'enquête, puis bon. Le fait qu'on a identifié un suspect, quelqu'un qui a des antécédents, qui est en prison, qui n'a pas encore été accusé, ce qui est rarement le cas, là, on nomme quelqu'un avant de l'accuser. Vous, est-ce que c'est comme une façon de vous rassurer de savoir que celui qui a mis le feu est au moins détenu?
Oui, en partie, parce que tu sais, on se dit ben tu sais, il y aura pas, tu sais, cette personne-là au moins fera pas d'autres dommages. Par contre, tu sais, il reste que tu sais, le fait que cette personne-là ne soit pas accusée fait qu'il y a plusieurs réponses à laquelle on n'est pas capable d'avoir de réponse. Le fait qu'il y ait une enquête en cours fait que l'enquête publique tu sais, ne se fait pas.
C'est quoi les questions que vous vous posez? Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Ben en réalité, la question principale concernant cette partie-là, c'est évidemment, c'est pourquoi il est pas accusé. Si ça, tout le monde le sait, les enquêteurs même l'ont confirmé dans les médias. C'est pas une surprise. Donc, tu sais, au final, pourquoi il y a pas d'accusation? Tu sais, en termes de deuil, puis. Je pense qu'un deuil pour quelqu'un, c'est chaque personne, ça se passe pas nécessairement pareil. Mm-hmm. Mais dans notre cas à nous, ben c'est sûr que ça fait en sorte que plus ça se prolonge, plus il y a de questions, ben plus le deuil est long, puis plus aussi ça devient difficile de passer à une autre étape.
Votre fille s'est retrouvée dans cet immeuble parce qu'elle avait loué par la plateforme Airbnb avec un ami.
Elle avait pas loué, là, elle avait été rejoindre des amis okay. Qui allaient loin.
Bon, elle se retrouve là. Et ce qu'on a su, c'est que quand l'incendie a commencé, elle a fait des appels au 911 puis elle s'est retrouvée comme coincée à l'intérieur.
Exactement.
Incapable de sortir.
Exact.
C'est ça le point le plus important, j'ai l'impression, pour vous, c'est de savoir quel était l'état des lieux, comment ce building-là était configuré, pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée là, coincée à l'intérieur?
Ben, je vous dirais, tu sais, il y a plein d'éléments. On peut parler des sorties de secours, on peut parler du système d'incendie, le système d'alarme. Il y a plein de choses. Qui a mis le feu aussi? Que ce soit, mettons, s'arrêter au début, on pensait que ça aurait pu être une défaillance électrique ou peu importe. Là, on sait que ça a été criminel. Toutes ces questions-là sont bonnes et légitimes. Mais en ce qui me concerne, moi, personnellement, c'est sûr que la dernière image que j'ai de ma fille, c'est qu'elle appelle le 911 puis que elle peut pas sortir parce qu'il y a pas de fenêtre. Fait que c'est sûr qu'on finit par se demander, ben c'est-tu légal de d'avoir un logement pas de fenêtre? T'sais, moi, c'est ma question qui me perturbe le plus. Si c'était légal parce qu'il y a une faille dans les lois ou quoi que ce soit, ben je me dis ben c'est qu'on fasse quelque chose pour que ça arrive plus. Puis si à l'inverse, ben on si c'est n'était pas légal, ben encore une fois, pourquoi il n'y a pas d'accusation à ce niveau-là aussi? Fait que, tu sais, moi, comme je vous dis, la dernière image que j'ai de ma fille, c'est, tu sais, elle appelle le 911, tu sais, elle demande qu'on vienne la chercher parce qu'elle ne peut pas sortir.
Elle est coincée complètement à l'intérieur.
Exact.
C'est de savoir comment vraiment ce building-là était aménagé. Vous parlez de chambres, pas de fenêtres, les escaliers de secours, les moyen de sortir, parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont péri dans l'incendie. J'allais dire, là, de savoir qui a mis le feu, c'est une chose, là, parce qu'on sait que c'est criminel, mais pour les proches, les parents, c'est de savoir pourquoi cet immeuble-là, une fois à l'intérieur, on ne peut plus sortir.
Exact. T'sais, au pire, il y aurait une fenêtre, elle serait sautée en bas du deuxième, elle serait cassée une jambe, elle aurait été brûlée, mais t'sais, elle est toujours là, pareil, au final. C'est aussi simple que ça. T'sais, moi, c'est la chose, t'sais, personnellement, parce que chaque personne va vivre ça d'une manière différente. Il y a beaucoup de gens qui étaient à l'étranger aussi, donc pas que je me retrouve à être le porte-parole, mais je suis un peu plus, exemple, sur les feux de la rampe parce que je suis peut-être plus local, si on veut. Mais c'est sûr qu'on finit par avoir peur que ça glisse un peu sous le tapis.
Est-ce que vous appelez les enquêteurs? Est-ce que vous communiquez avec eux? Est-ce que vous essayez de savoir ce qui se passe?
Oui. Ben, je le faisais plus régulièrement avant Noël, je vous dirais. J'ai un lâcher-prise là, un peu depuis ce temps-là. C'est sûr qu'à force d'entendre sensiblement les mêmes histoires, mais tu sais, les enquêteurs, tu sais, puis je le comprends, puis tu sais, un enquêteur de police, ce n'est pas nécessairement un spécialiste en construction. Puis tu sais, là, finalement, ça devient une enquête sur les lois en construction, qu'est-ce qu'il y avait le droit, qu'est-ce qui était légal, qu'est-ce qui était pas. Fait que, tu sais, lui, c'est un département qui est un peu nouveau. Tu sais, au niveau de l'enquête, ce qu'on m'a expliqué, ce qui faisait que, tu sais, ça traînait en longueur. Mais, tu sais, au final, tu sais, je me dis, tu sais, la police, la RBQ, tous ces gens-là sont tous payés par le gouvernement au même endroit. Donc, j'ai de la misère à comprendre pourquoi il n'y a pas une entraide. Puis qu'on n'est pas capable de. Parce qu'en date d'aujourd'hui, je sais toujours pas. Mettons, si je prends juste l'élément de la. Je sais toujours pas si c'est légal d'avoir une fenêtre. Faire la location d'un logement sans fenêtre, sans issue de secours. En date d'aujourd'hui, je ne sais pas. Ni l'enquêteur était capable de me le dire, ni la RBQ, ni personne.
Quand on a eu vent qu'il y avait des conflits entre les policiers qui enquêtaient, ça a été nié par le service de la police,
oui.
Mais qu'il y en a qui se rallient dans une direction, l'autre vers une autre direction. Comment vous avez reçu ça? Comment vous avez réagi à cette nouvelle-là?
Ben, moi, personnellement, je suis quelqu'un de quand même très terre à terre et t'es analytique. Donc, tu sais, les enquêteurs m'ont appelé immédiatement après, entre guillemets, ils m'ont rassuré, puis tu sais, j'ai cru à leur histoire. Je les crois encore à un certain point, mais tu sais, je peux pas dire que dans mon environnement, tout le monde pense exactement la même chose.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ben, tu sais, certaines personnes, tu sais, mettons, dans mon entourage proche, on peut penser que on essaye de couvrir quelque chose, puis c'est pour ça que ça traîne en longueur, ça empêche d'avoir l'enquête publique. Il y avait le moratoire de la ville qui faisait qu'il y avait plus vraiment d'enquête sur les issues de secours, puis ainsi de suite. Fait que au début, tu y crois pas, mais à la longue, comme tu sais, une des raisons pourquoi je suis, c'est parce que ça fait un an, puis tu sais qu'on se pose toujours des questions sur des questions qui, pour moi, sont relativement claires, c'est noir ou c'est blanc. Mais tu sais, puis il se passe toujours rien. Ben tu sais, ça fait en sorte que tu sais, on va dire tout ce qui traîne se salit. Ben là, à la longue, on finit par se dire, ben peut-être que je sais pas.
Est-ce que le propriétaire de l'immeuble s'est manifesté auprès de vous depuis un an?
Jamais.
Jamais?
Jamais.
Pas son avocat, personne.
Personne.
Est-ce que vous auriez souhaité qu'il se manifeste?
Ben, absolument. Ben, tu sais, quelqu'un qui démontre de l'empathie, quelqu'un, pas nécessairement de s'excuser, là, c'est peut-être pas le bon mot, là, puis tu sais.
Non, mais partagez votre peine en disant, exact, je comprends.
Tu sais, automatiquement, tu sais, on a déjà un sentiment où est-ce que, tu sais, il y aurait moins de colère, évidemment. Ça aurait été très simple et très légitime. Ça aurait coûté probablement 30 secondes. Mais bon, c'est pas grave.
Même pas une lettre?
Non. Il a envoyé une lettre à la ville pour dire qu'il voulait les poursuivre à la place.
Pourquoi vous parlez aujourd'hui?
Ben, la raison, bizarrement, c'est que tu sais, j'ai jamais vraiment fait d'entrevue ou de déclaration, quoi que ce soit, suite à, ou peut-être une ou deux petites au début, mais tu sais, ce qui se passait, je trouvais que c'était plus personnel, ça me regardait, tu sais, comment qu'on vit notre deuil, on gardait ça pour nous, c'était plus privé, si on veut, mais après un an, là, j'ai reçu beaucoup de demandes d'entrevue dans la dernière semaine, puis je disais non, puis au final, en parlant avec ma femme, on en est venu au fait que ben, peut-être que ce serait bon parce que ça traîne en longueur, puis on n'a toujours pas de réponse, puis c'est plus difficile de faire notre deuil, suite à ça. T'sais, on aimerait ça que ça avance, on aimerait ça pouvoir avoir certaines réponses à certaines questions, puis pouvoir avancer.
On vous souhaite des réponses. La coroner Kamel qui va enquêter est une femme remarquable.
J'ai parlé à quelques reprises, très gentil, mais encore une fois, il faudrait que les enquêtes finissent.
Exact. Elle est prise dans un calendrier, mais c'est quelqu'un, je la regarde aller dans le cas de la policière qui a été assassinée, disons qu'elle pose en tout cas des bonnes questions, puis si on peut lui donner la chance de poser des bonnes questions dans votre dossier, ben au moins on risque de faire avancer.
J'attends ça avec impatience.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça fait plaisir.
Bon courage.
Merci.
Louis-Philippe Lacroix, qui est le père de Charlie, qui est malheureusement décédé dans cet incendie terrible dans cet immeuble du Vieux-Montréal. Je rappelle, la police a identifié un suspect, ce qu'elle ne fait jamais sans l'accuser. C'est une pratique pour le moins inhabituelle. Quelqu'un qui est en prison, quelqu'un qui a des antécédents. On sait que la bâtisse est à vendre depuis et il y aura une enquête publique, mais tout ça est tributaire de l'enquête policière. Et même si quelqu'un a mis le feu, la question la plus importante pour M. Lacroix et pour les autres, c'est de savoir quel était l'aménagement des lieux. Est-ce que, comme il dit, d'avoir une chambre, pas de fenêtre, c'est légal ou pas? Est-ce que c'est normal ou pas? Quel était l'état du système de sécurité, système incendie à l'intérieur de l'immeuble? On peut spéculer jusqu'à demain, mais on n'a pas les réponses et je pense que pour les proches, c'est ce qu'il y a de plus important pour faire un véritable deuil.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, la COVID, officiellement, on entrait dans cette pandémie il y a 4 ans. Je vais revenir dans quelques instants, mais depuis quelques jours, ce qui nous préoccupe, ce sont les cas de tuberculose qui ont été répertoriés à Montréal. Les cas de rougeole, on s'est dit pourtant, ça devrait être complètement disparu. Ce n'est pas le cas. Dr. Carl Weiss est avec nous ce matin. Dr. Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Parlez-moi d'abord du retour de la tuberculose. Comment on explique ça?
Bon, alors écoutez, la tuberculose, c'est très simple. Je vous dirais, c'est l'arrivée extrêmement importante de gens au Canada, de partout dans le monde, pour toutes sortes de raisons, donc qui arrivent comme réfugiés la plupart du temps, et qui se présentent pour une maladie qui est très fréquente encore à l'échelle planétaire. La tuberculose, c'est extrêmement fréquent dans beaucoup d'endroits sur la planète, l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, parfois l'Amérique du Sud dans un degré moindre. Donc, ce que je veux dire, c'est que la tuberculose, c'est une maladie encore très prévalente sur Terre. Et donc, les gens, sur le nombre des gens se présentent et arrivent avec des symptômes qui sont compatibles avec la tuberculose. Dans le passé, dans le processus d'immigration au Canada, les gens devaient passer des tests pour la tuberculose avant d'arriver. Mais dans le contexte où là, les réfugiés arrivent, donc sans passer par le filtre de l'immigration, on voit qu'il y a une résurgence importante de tuberculose qui est finalement un exemple du passage de gens de zones très endémiques vers des zones moins endémiques. Et ça montre aussi qu'on est retourné à un nombre de voyages extrêmement élevé sur la planète. La tuberculose, c'est plus un problème local, donc c'est plus de 80-90% des cas sont des gens qui sont nés à l'extérieur du Québec. Le Québec a connu de la tuberculose dans le passé, vous le savez, on a construit beaucoup de sanatoriums dans les années 30, 40, 50, mais c'est un problème qui avait été, entre guillemets, quasiment résolu, à part quelques poches ici et là. Beaucoup de Québécois, je dirais, d'un âge de plus de 50 ans, se rappellent tous d'avoir été vaccinés contre la tuberculose. Quand on leur demande la graphine dans le dos, tout le monde sait ce que c'est dans cette génération-là. Et puis là, on voit qu'il y a une résurgence de la tuberculose, comme d'ailleurs on a une augmentation très importante du nombre de cas de VIH, du nombre de cas d'hépatite B, d'hépatite C, qui finalement, et on le voit dans toutes les cliniques où on accueille finalement les gens qui sont porteurs de ces virus-là, on voit qu'il y a une augmentation dramatique, je dirais post-pandémique, de ces cas-là.
La santé publique disait la semaine dernière qu'il y avait comme une fatigue vaccinale, pas nécessairement une opposition, mais une espèce de, appelons ça une négligence, une fatigue que les gens avaient laissé tomber la vaccination. Vous l'avez dit, dans le cas de la tuberculose, le vaccin existe. Est-ce que ça veut dire que dans les autres pays, il n'est pas accessible? Les gens veulent pas se faire vacciner ou tout simplement, il n'y en a pas disponible?
OK. Alors, le vaccin est disponible. D'abord, le BCG. C'est pas un vaccin extraordinaire, mais c'est quand même un vaccin qui a son efficacité dans les zones où il y a beaucoup de tuberculose. Donc, il y a encore beaucoup de pays sur la planète qui vaccinent contre la tuberculose. On ne le fait plus au Canada depuis un certain nombre d'années parce que, justement, la tuberculose n'était plus un gros problème. Mais dans ces pays-là, il y a encore beaucoup d'endroits où les gens sont vaccinés. Évidemment, pour toutes sortes de raisons, il peut arriver que la quantité de vaccins qui est administrée, surtout dans le contexte post-pandémie, c'est pas toujours dû forcément dans ces pays-là à une fatigue. Parfois, c'est dû à des conditions politiques instables, des conditions sociales instables. Donc, les campagnes de vaccination, on voit que, par exemple, toute la région du Sahel est une région très, très instable actuellement. Donc, si vous prenez des pays comme le Mali, le Burkina Faso, etc., ce sont des pays qui connaissent beaucoup d'instabilité politique actuellement. Donc, les campagnes de vaccination sont pas très, très actives, on va dire. Et donc, pour la tuberculose, je vous dirais, c'est plus cet aspect-là. Il y a d'autres maladies, par exemple, on a parlé de la rougeole en introduction, où là, il y a eu une espèce de fatigue ou une espèce d'opposition à la vaccination contre la rougeole dans certains groupes de la population. Et donc, on a une maladie qui avait quasiment disparu en Amérique du Nord, en Occident, même dans la plupart des pays dans le monde, a vu une résurgence pour, encore une fois, différents facteurs qui sont liés. D'abord, il y a des pays, je prends l'exemple du Yémen où il y a une guerre civile, où il y a une résurgence de rougeole parce que les gens étaient plus vaccinés. Ensuite, comme ces gens-là voyagent, ils amènent la rougeole dans des endroits où les enfants sont moins vaccinés qu'ils étaient auparavant parce que là, il y a des parents qui s'opposent à la vaccination contre la rougeole. Et donc, c'est des populations qui sont vulnérables et plus à risque d'attraper la rougeole, qui au passage est une maladie infectieuse extrêmement transmissible, probablement une des plus transmissibles. Donc, c'est très infectieux, la rougeole. rougeole. Quelqu'un qui a la rougeole, qui est en contact avec quelqu'un qui n'a pas la rougeole, le risque de transmission est très élevé. Donc tout ça, finalement, ces conditions, je vous dirais, sociales, politiques, économiques, de voyage, d'abandon un petit peu de vaccination sous différentes formes à l'échelle planétaire, et font qu'on voit ces résurgences de maladies infectieuses qu'on pensait plus ou moins contrôlées dans le passé.
Juste un volet plus technique, la tuberculose, quels sont les symptômes et on soigne ça de quelle façon?
Bon, alors la première chose, c'est que la tuberculose, en réalité, ça peut affecter principalement tous les systèmes, mais c'est surtout la forme pulmonaire qui nous inquiète le plus. Donc les gens se présentent avec une espèce, par exemple, de pneumonie, entre guillemets, qui va durer, donc de la fièvre, souvent une perte de poids, de la toux, ils vont cracher. Donc c'est vraiment un tableau, si vous voulez, de, entre guillemets, d'infection respiratoire qui a tendance à perdurer. Mais la tuberculose, ça peut affecter tous les organes, hein. Ça peut toucher les os. Donc les gens peuvent se présenter avec des problèmes au niveau des os. Ça peut affecter le système urinaire, donc les gens peuvent avoir des problèmes au niveau de l'urine. Mais principalement, on va dire, c'est le problème de respiratoire qui est le plus problématique parce que c'est celui aussi qui est le plus contagieux. Deuxièmement, en ce qui concerne le traitement, on a de très bons traitements pour la tuberculose, donc c'est pas vraiment un problème. Le seul problème du traitement, c'est qu'il est long. Habituellement, on va traiter les gens pendant 6 mois, 9 mois, parfois même plus dans certains cas. Donc c'est des traitements qui peuvent durer 6 mois et plus avec plusieurs médicaments. Donc c'est vraiment une question d'observance au traitement qui est le plus gros défi. Mais le traitement de la tuberculose, une fois diagnostiqué, c'est pas vraiment quelque chose de qu'on peut voir comme un gros défi.
Bon, on vous a parlé à maintes reprises durant toute la période de la pandémie. 4 ans plus tard, qu'est-ce que vous retenez? Puis cette question là, qui revient sans cesse depuis quelques jours, là, est-ce qu'on a retenu des choses? Est-ce qu'on a appris des leçons dans l'hypothèse où une nouvelle pandémie pourrait nous frapper au Québec?
Alors oui, on a certainement appris des leçons. La première chose, c'est que d'abord, on a éduqué la population qui maintenant est très consciente des maladies infectieuses qu'elle l'était beaucoup moins auparavant. Deuxièmement, on sait que la population maintenant est capable de porter des masques quand c'est nécessaire. Donc les gens sont capables de porter des masques. Ce n'est plus, je vous dirais, juste l'apanage du système de santé, de voir des gens qui travaillent dans le système de santé. Troisièmement, les gens sont capables de s'auto-tester. Alors on verra probablement dans le futur peut-être de nombreux auto-tests qui vont arriver sur le marché pour toutes sortes de choses. Donc les gens sont capables maintenant de se tester eux-mêmes et je pense que ça c'est des choses qu'on a appris. Donc la conscientisation, on est capable de porter des masques, on sait s'auto-tester, on est capable aussi de penser à son environnement. Il y a les populations plus à risque, donc les gens plus âgés, les gens qui ont des maladies sous-jacentes qui suivent ça de plus près en termes de vaccination, avec raison dans certains cas. Et puis après ça, il y a tous les impacts sociaux de la pandémie. On le voit, le télétravail, on voit beaucoup de choses qui ont changé là, dans notre façon de vivre jusqu'à un certain point. La seule chose que je dirais, c'est qu'on voit aussi qu'on est rapidement revenu et heureusement à une vie plus normale. Mais j'espère qu'on n'oubliera pas, parce que le danger de toutes ces choses-là, c'est que avec le temps, 3, 4, 5, 6 ans, les gens oublient, les gouvernements oublient, donc investissent moins dans la préparation, dans les systèmes d'alerte. Et à ce moment-là, je vous dirais, on risque de se faire prendre encore dans le futur. Le bon côté des choses, on le voit peut-être avec la rougeole, c'est que dès qu'il y a une résurgence d'une maladie infectieuse, les gens sont très conscientisés au niveau problème. Les gens veulent qu'on intervienne rapidement. C'est rapidement discuté au niveau des services de santé, au niveau de la population générale. On voit même qu'il y a des gens qui se sont fait vacciner pendant la période de relâche pour la rougeole. Donc on voit qu'on est encore dans cette phase où on a, si vous voulez, les bénéfices de la pandémie. Le seul danger, c'est qu'avec les années, s'il se passe rien, à ce moment-là, comme toujours, les gouvernements peuvent toujours être tentés de dire bon ben on va faire moins d'efforts, on mettra moins d'efforts là-dedans, avec les conséquences que ça peut avoir.
Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir. Dr Carl Weiss, qui est microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal. Maintenant, on va regarder la situation en Haïti parce qu'il y a eu un peu d'évolution dans les dernières heures. On a appris que le premier ministre Ariel Henry, qui est à Porto Rico, incapable de rentrer donc en Haïti, annoncé qu'il avait l'intention de démissionner. Mais on n'a pas de date, en tout cas, jusqu'à maintenant. Tout ça alors que le pays est toujours confronté à cette emprise des gangs, notamment pour ce qui est de la capitale Port-au-Prince. Étienne Côté-Paluc est avec nous, journaliste basé en Haïti depuis 14 ans, rédacteur en chef de Haïti Magazine. Étienne, bonjour.
Bonjour, Paul.
D'abord, là, est-ce qu'on a des précisions à quel moment le premier ministre a l'intention vraiment de quitter le pouvoir?
Bon, c'est une question qui est encore en suspens pour l'instant. Il a annoncé qu'il quitterait le pouvoir une fois que serait installé le comité de transition présidentielle. Et c'est seulement à ce moment qu'on pourra vraiment savoir la date exacte de sa démission. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il a annoncé sa démission dans un message vidéo hier soir. Probablement que ça se fera dans les prochains jours. Tout au moins les prochaines semaines, mais c'est clair qu'on est sur le point d'annoncer la composition de ce comité présidentiel, ce conseil présidentiel. On attend de voir comment vont aboutir les négociations. Les critères étaient assez clairs. Il fallait pas que ce soit quelqu'un qui a déjà été accusé d'un crime. Il fallait pas quelqu'un qui a subi une sanction, ni quelqu'un qui a l'intention de se présenter aux prochaines élections.
Bon, ça a été reçu de quelle façon? Est-ce qu'il y a un soulagement? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir ou on reste de glace?
Il y a clairement un soulagement parce que c'est une figure politique très détestée dans le pays en ce moment, en raison en particulier du fait qu'il était incapable de limiter l'avancée des groupes armés depuis 3 ans et de 2 ans et demi qu'il est au pouvoir. Donc, c'était quand même un soulagement. On a entendu quelques tirs probablement de joie hier après l'annonce, pendant la nuit, vers minuit. Mais ce matin, tout est calme encore. Les gens quand même attendent de voir quelle sera la réaction des groupes criminels armés qui ont commencé à attaquer certaines institutions depuis 10 jours. Certains ont déjà annoncé qu'ils rejetaient le gouvernement, mais est-ce que les actions de violence vont poursuivre? C'est ce qu'on attend de voir. Entre-temps, on a toujours une bonne nouvelle. On les prend comme on peut. Le port commercial de Port-au-Prince est de retour dans les mains des autorités, semble-t-il, a-t-on annoncé hier. On attend de voir si les containers vont pouvoir continuer à revenir vers Port-au-Prince.
Est-ce que les gangs armés, l'autre jour tu nous as bien décrit là, les factions qui sont en présence, vont pactiser avec ce comité de transition, avec le nouveau gouvernement, vont se retirer? Comment cette cohabitation-là peut se faire?
Pour l'instant, ça semble être rejeté d'emblée puisque Barbecue, le célèbre chef de groupe armé, de son vrai nom, Jimmy Chérizier, qui est porte-parole de la coalition qui fait les attaques depuis quelques jours, hier, pendant les négociations qui avaient lieu en Jamaïque, a annoncé qu'il ne supporterait pas le nouveau gouvernement, qu'il continuerait la lutte violente malgré tout. Reste à voir si dans les faits ce sera vraiment le cas, mais pour l'instant, on sent que ce sera pas nécessairement une entente assez très cordiale.
Maintenant, tu parlais des négociations en Jamaïque. Le Canada fait partie de la discussion, les Américains, les pays des Caraïbes et tout ça. Il n'y a pas d'entente finale, mais on laisse planer la possibilité qu'il y ait ce qu'on appelle une forme d'aide, une coalition qui pourrait venir en aide à Haïti. On sait qu'il y aura des policiers, des militaires du Kenya. Donc, est-ce que c'est bien reçu, cette espèce d'aide venant de l'étranger? Je sais qu'il y a des réticences quand on parle d'une force multinationale, oui, pour des raisons historiques. Mm-hmm. Mais comment les gens réagissent face à ces négociations?
Bon, il y a une critique, il y a un soulagement en même temps. Ça dépend à qui on parle, mais c'est souvent un mélange des deux. Un peu l'appréhension aussi. Comme tu l'as dit, il y a un historique assez lourd de l'intervention étrangère en Haïti. Donc, les gens regardent ça quand même avec un peu de doute. Mais en même temps, en ce moment, n'importe quelle solution est la bienvenue parce que tout est à l'arrêt, il y a rien qui fonctionne dans le pays et les gens attendent simplement de pouvoir circuler pour pouvoir faire leur propre commerce, faire leur propre argent. Et ils demandent généralement pas nécessairement de l'aide internationale, mais surtout de pouvoir retourner à la sécurité. Donc, à court terme, c'est un besoin assez criant. À long terme, c'est certain qu'il y a beaucoup de critiques. C'est certainement pas ça qui va être la solution qui va pouvoir ramener la sécurité à long terme dans le pays.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Étienne Côté-Paluc, je rappelle, journaliste basé en Haïti depuis 14 ans et rédacteur en chef de Haïti Magazine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Ben justement, en parlant du trou sur Notre-Dame, on peut, comme dit Marc, circuler. Les travaux ont été faits dans les derniers jours. Philippe Sabourin, de la Ville de Montréal, est avec nous. Monsieur Sabourin, bonjour.
Ben bonjour, je pensais pas revenir si rapidement.
Moi non plus, je vous attendais pas aussi vite que ça, mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse enfin colmater la brèche?
Ben, je vous avais dit, la dernière fois qu'on s'est vu, que à l'automne, on avait cherché la pièce, qu'on l'avait pas. C'est vrai, on l'avait pas en inventaire, la pièce ne figurait pas dans notre inventaire. Puis oui, on avait fait des efforts de rechercher la pièce qui nous manquait, une pièce de remplacement. C'est pour ça qu'on a fait faire une sur mesure. Hein. Bon, mais je reviens sur comment ça se fait que là, on a un déblocage, que ça enfin fini comme dossier. On a trouvé une pièce, on l'a trouvée parce que on a utilisé les médias pour lancer notre appel d'avis de recherche. Là, je veux pas faire un Gaston Lheureux de moi-même, mais on a lancé l'avis de recherche pareil. Et deux employés de l'entretien, dans un entrepôt du service de l'eau, ont trouvé une pièce qui était pas fonctionnelle. Elle était brisée. La pièce sur Notre-Dame, qui était déficiente, à l'automne, hein, c'est le cadre qui était pas bon, mais les portes étaient bonnes. La pièce retrouvée, le cadre était bon, mais il manquait une porte. Alors, on a fait du neuf avec du vieux, puis tout ça en à peu près une semaine.
Cette pièce-là, là, oui, qui a été retrouvée, est-ce qu'elle était là l'automne dernier?
Oui, t'es dans le fond d'un garage, sous des palettes, empoussiérées. Là, comprenez que la Ville de Montréal, c'est 25 000 employés. C'est au-delà de 50 garages et entrepôts. Donc, c'était de chercher l'aiguille dans une botte de foin. D'avoir l'occasion d'être à votre micro, notamment, de lancer le grand cri. Les gens nous ont entendu, la preuve en est. Deux employés d'entretien ont trouvé ça. Ils se sont dit, cette pièce-là est brisée, mais si la porte... Si on peut prendre juste le cadre et utiliser les portes de la pièce brisée, on va faire du neuf avec du vieux. C'est ça qui s'est passé.
C'est parce qu'on se dit, la pièce était là, y a-tu un inventaire? Y a-tu quelqu'un qui...
Oui.
Pendant toutes ces semaines-là, là, je comprends qu'on attendait une nouvelle pièce, mais il n'y a pas moyen de la trouver avant.
Elle ne figure pas sur l'inventaire puisqu'elle est endommagée, inutilisable. On a vraiment pris deux pièces, on les a usinées, on les a assemblées. On a profité d'une fenêtre d'opportunité la semaine dernière, c'est la semaine de relâche. Notre entrepreneur était disponible. En fin de semaine dernière, il n'y avait pas de travaux dans le tunnel. Alors, on a non seulement installé la pièce, mais à l'origine, on devait retourner au printemps pour faire le béton. Avec les températures clémentes qu'on a eues en fin de semaine, moi, je vous annonce que la pièce est sur place. C'est pas du temps passé. C'est du solide, c'est du permanent. Et non, on ne retourne plus devant la fleur pour finaliser ces travaux-là. On considère que c'est bon pour 50 ans et plus.
OK, ça veut dire que c'est vraiment la touche finale a été mise.
Oui, le pavage a été fait hier. Hier après-midi, on a retiré... Ça fait un drôle de changement. Hein? Il n'y en a plus de cône. Hein? Puis on n'ira pas fêter le Noël du grand-père. C'est fini, on ne retourne pas là, c'est complété.
OK, mais on a fait que la rue Notre-Dame, il y a quand même encore pas mal d'enjeux de qualité de chaussée, on va dire.
Oui, mais elle est aussi très importante, surtout dans le contexte que les travaux du tunnel se poursuivent. On a besoin de ce lien-là. On est content de l'avoir retrouvé. On a fait une erreur. Puis c'est une erreur de plusieurs personnes, je vous l'avais expliqué, mais c'est aussi en équipe qu'on s'est relevé et en moins d'une semaine à peu près, là, on a reviré ça de bord du tout au tout, on s'est reviré sur un dessous. Hein.
La pièce neuve qui faisait pas est rendue où, puis qu'est-ce qu'on fait avec?
On va l'utiliser pour d'autres besoins, là où on pourra l'utiliser avec les dimensions qu'on a reçues. De mémoire, c'était un 48 par 96 et on devrait être capable de la reprendre ailleurs.
Vous êtes sûr de ça, là?
Oui. Non, la pièce est bonne, elle est bien fabriquée, elle est solide. C'est juste qu'elle ne pouvait pas combler le grand trou qu'on avait sur Notre-Dame. On va l'utiliser ailleurs. Par contre, je vous vois venir avec la prochaine question. Ben, allez-vous en commander une autre? Hein? Ben, certainement qu'on va en commander une autre. On ne se fera pas prendre deux fois avec cette patate-là devant la fleur.
Allez-vous prendre les bonnes mesures?
Système
métrique ou système impérial?
Je vous dirais que la pièce est même déjà commandée, donc si jamais on a à revivre ce scénario-là, ce qui est à peu près improbable, mais si ça se représente, on aura une pièce, on attendra pour 6 mois avant de la recevoir, ça c'est sûr.
Ok, comme on dit, vous allez avoir stocké.
Oui. Puis on aura retenu des leçons de cette erreur-là, je vous l'ai dit, c'est un cafouillage, on l'a admis, mais... ce que ça nous a apporté, c'est d'être en contact avec plusieurs personnes qui ont entendu mon appel. Je vous l'ai dit, des entrepreneurs la semaine passée, au moins 4 firmes m'ont téléphoné pour me dire, Philippe, on a entendu ton besoin, on serait capable de t'épauler. Donc, on a fait une bonne mise de connexion avec ces gens-là. Et l'équipe, ensemble, ben je vous l'ai dit, on a fait une erreur, mais on se rattrape ensemble, puis on s'est reviré de bord en moins d'une semaine.
Mais mon autre question, d'après vous, là, est-ce qu'on aurait pu faire une pièce sans aller avec cette fonderie puis avec un délai puis que ce soit aussi long? Est-ce que... Puis là, moi, il y a des entrepreneurs qui m'ont écrit en disant, vous vous êtes cassé la tête pour rien. Il y avait moyen de faire ça autrement puis aussi vite. En fait, plus vite.
Bon, ben, il y a le choix des matériaux. Nous, on voulait de la fonte ductile. Certains vont prétendre que c'est pas nécessairement ce qu'on avait de besoin, mais là, ça, c'est très discutable. Après, il faut voir que des fonderies dans la région, c'est une industrie qui est plus ce qu'il était. Il y en a beaucoup moins de joueurs dans ce domaine-là. Le fait est, c'est qu'on a été mis en contact grâce aux haut-parleurs que j'ai utilisés ici, avec plusieurs joueurs de l'industrie qui nous ont fait connaître leur intérêt, puis on va privilégier ces relations-là, on va les maintenir, puis au besoin, ben on va utiliser nos nouveaux contacts, ça c'est certain.
J'ai dit souvent à Laval que vous êtes l'agneau sacrifié. Moi, j'ai l'impression des fois que la ville vous dit pas tout, puis vous envoie au bâton. C'est pour ça que je vous ai un peu défendu la dernière fois en disant c'est pas lui le problème. Là, vous incarnez la ville aux yeux des gens, là, mais c'est pas vous qui allez prendre les mesures, c'est pas vous qui allez passer les commandes, vous êtes... comme on dit, le porte-parole de la ville sur ces questions-là. Oui. Donc, c'est vous l'agneau sacrifié. Quand on vous dit pas tout, vous pouvez pas tout me dire.
Ben, c'est une ville, c'est 25 000 employés et plus. Moi, avant de venir à votre micro, je brasse le cocotier, j'essaie d'obtenir tous les fruits pour vous donner le plus d'informations. Puis en toute transparence, je pense que ça a été payant de vous exprimer la problématique, puis de rendre compte aujourd'hui qu'on est capable aussi de se revirer de bord, puis de faire preuve de créativité.
Faites l'inventaire de vos cochonneries dans les garages municipaux, il y a peut-être des affaires qui peuvent en conserver. Hein?
J'en prends un.
OK, merci. Ça marche. Philippe Sabourin, qui est de la ville de Montréal. Juste pour rire, bon, on sait que les créanciers attendent en ligne. Officiellement, il n'y aura pas de festival à Montréal cet été. Il y a le groupe, il y a le festival. Est-ce que c'est possible de sauver le festival? Est-ce que c'est possible d'organiser à Montréal cet été un événement mettant en vedette des humoristes? Le Devoir nous disait hier que Grégoire Furrer, qui est fondateur et propriétaire du groupe GF Productions, qui organise des festivals d'humour en France et en Afrique, aurait un intérêt. Il est avec nous ce matin. Monsieur Furrer, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcon.
Alors, est-ce que vous êtes intéressé à organiser à Montréal un festival comme celui de Juste pour rire?
Bah, écoutez, déjà pour vous répondre, nous on est à Montréal depuis une année, donc on est évidemment frappé comme tout le monde par la nouvelle de Juste pour rire. Et puis mes premières pensées sont d'ailleurs allées pour toute l'équipe de Juste pour rire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillaient à Juste pour rire et que je connais et qui sont des amis. Mais nous on est là depuis une année déjà avec un événement qui s'appelle Exclame, qui met l'humour et l'innovation en avant. Et comme je l'ai dit déjà souvent dans la presse, notre objectif n'était pas de remplacer Juste pour rire ou un autre acteur au Québec, mais de compléter ce qui existe déjà au Québec. Donc ce festival est prévu pour le mois de mai. On allait annoncer la programmation incessamment sous peu, et puis les événements de la semaine dernière nous ont obligés à nous interroger sur la stratégie. Je vous cache pas que beaucoup d'artistes parmi les plus grands du Québec m'ont appelé pour me dire que c'est dramatique d'avoir un été blanc à Montréal, parce que voilà, l'ensemble de l'industrie se réjouissait de faire ce festival Juste pour rire cet été. Et donc on s'est posé la question si c'était possible de déplacer Exclame de mai en juillet, en totalité ou en partie, et puis de faire quelque chose. Alors faire quoi aujourd'hui, je peux pas vous répondre avec précision. Je pense que c'est possible de faire quelque chose cet été. C'est pour ça que j'ai lancé une main tendue auprès de la profession, en disant voilà, discutons ensemble, trouvons des solutions avec les salles, avec les producteurs, avec les artistes, avec les artisans, pour faire quelque chose cet été. Moi, je pense que c'est très important quand même de souligner que arrêter un festival, c'est une décision terrible. Ça prend quelques minutes pour dire on arrête un festival. Et par contre, pour construire un festival et créer un festival, ça prend des décennies. Donc, laisser un été passer sans festival, je pense, est bien pire que trouver des solutions, même si elles seront pas parfaites. Je vous cache pas qu'en 3 mois, on va pas pouvoir réinventer la roue. Mais par contre, essayer de faire quelque chose, mettre une énergie sur la table, pour garder, pour que Montréal garde cette place que Montréal a dans l'humour francophone, ça me paraît indispensable.
Il y a deux volets au festival Juste pour rire. Il y a le volet de spectacles gratuits, d'événements publics dans la rue, et il y a tout le volet des spectacles payants. Est-ce que vous voulez faire tout ça ou simplement récupérer le volet de concerts en salle, de spectacles en salle?
Écoutez, le modèle économique des festivals à Montréal, je pense, fait l'envie du monde entier. Il faut savoir que moi, je suis suisse, j'ai beaucoup d'amis en Suisse qui rêvent de passer l'été à Montréal parce qu'il y a justement une culture gratuite, une culture de premier plan. Donc, Montréal est la seule ville au monde que je connaisse qui offre autant de spectacles gratuits à un public et qui offre aussi un rayonnement pour la métropole. Donc c'est un modèle qui est envié dans le monde entier. À partir du moment où on se projette dans un festival en été, il faudra prendre en compte tous ces paramètres. Après, il y a une réalité qu'il faut mettre sur la table. Il y a un festival aujourd'hui qui a annoncé faire faillite. C'est un festival qui a posé les plaques. On va essayer de récupérer ce qu'on peut avec l'industrie qui voudra nous suivre. On pourra pas tout faire en un été. On pourra pas arriver comme ça qu'un coup de baguette magique, avoir un festival qui fait faillite et puis le remplacer du jour au lendemain en quelques semaines. C'est pas possible. Par contre, c'est clair que le modèle des festivals à Montréal est un modèle absolument incroyable et il faut respecter ça et il faudra trouver des solutions évidemment les acteurs d'industrie.
Même si tout n'est pas possible à court terme, là, parce que ça vient quand même assez vite, est-ce que le modèle pour vous est viable? Est-ce que c'est pensable d'avoir, malgré les problèmes financiers dont, je dirais, on connaît peu de choses là, sur les causes réelles, mais est-ce que c'est réaliste de penser de garder cette formule mixte de gratuité et de spectacle payant?
Vous savez, j'ai beaucoup lu les journaux ces dernières semaines. J'ai beaucoup parlé à des gens de l'industrie. Je vais pas vous mentir que l'industrie en général et des gros acteurs comme le Festival de Jazz, qui est un modèle, s'interrogent aujourd'hui sur le modèle économique. J'ai lu partout que voilà, il y a aujourd'hui le modèle a changé. Entre les premières années, il y a une trentaine d'années, ce modèle gratuit qui était neuf, hein, et aujourd'hui la nouvelle situation, la situation de la place des Arts, la problématique du voisinage, les commerçants qui aujourd'hui fonctionnent très bien dans le quartier, je pense qu'il y a un modèle à réinventer, mais c'est normal. Il n'y a aucun modèle économique, que ce soit dans la culture ou pas d'ailleurs, qui peut rester le même pendant des décennies. Donc, je sais qu'aujourd'hui, les grands acteurs de la place réfléchissent à faire évoluer le modèle économique avec les pouvoirs publics, avec les partenaires qui sont impliqués dans cet écosystème. Évidemment, si on avait la chance de pouvoir participer à cette réflexion, on le fera avec les autres acteurs. On le fera pas tout seul, on va pas réinventer tout seul la roue, c'est sûr. Après, d'une manière générale, l'ensemble des acteurs culturels doivent aujourd'hui se poser la question de leur modèle économique, pas uniquement sur le côté rue. Aujourd'hui, on est sur un monde aujourd'hui qui est l'entertainment, le divertissement est en mode monde qui est extrêmement fragile. On voit bien qu'aujourd'hui, la plateformisation, la digitalisation des événements est extrêmement importante. Nous, vous savez, on a le plus grand groupe d'humour francophone au monde. On a 6,1 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et nous faisons, avec le groupe Montreux Comédie, parce que mon festival plus important est en Suisse, qui est pourtant un tout petit pays, hein. La Suisse, c'est 1,5 million d'habitants qui parlent français, c'est 5 fois moins que le Québec. Et pourtant, on a réussi à créer depuis la Suisse un géant mondial de l'humour parce que nous avons été les premiers, il y a 15 ans, à embrasser le digital. Aujourd'hui, on fait 1,5 million de vues par jour. Toutes les secondes, j'ai 17 vues dans le monde, toutes les secondes. Ça fait 500 millions de vues par an. Voilà, cette plateforme digitale aujourd'hui, moi j'ai envie de la mettre à disposition de l'écosystème québécois. Moi, j'ai envie de dire à des artistes québécois que j'adore, avec un des écosystèmes que j'adore. Vous savez, ça fait 35 ans que je vis au Québec. Donc, j'aime le Québec vraiment comme une terre d'accueil. J'ai envie de dire aux industries créatives et culturelles, aux Québécois, aux artistes québécois, rejoignez-nous sur cette plateforme et allez parler avec votre humour à des Français, à des Suisses, à des Belges, à des Africains. Et créons cette passerelle culturelle entre toutes les régions de la francophonie. Monsieur, c'est ça aujourd'hui l'avenir du modèle économique.
Monsieur Furrer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Mais je vous en prie, merci.
Grégoire Furet, qui est le fondateur et propriétaire du groupe GF Productions. C'est quelqu'un qui dit à moyen, peut-être, je dis bien peut-être, et là, la question des fonds publics, est-ce que la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec... Mais c'est vrai que ça fait un trou pour la programmation estivale.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.